Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Axel Maugé.
Aujourd'hui, nous présentons la troisième partie de l'émission sur les merveilleux francophiles argentins. Alors, il faut rappeler que pour comprendre une bonne partie des relations entre la France et l'Argentine, il faut tenir compte des liens profonds historiques qui ont existé entre ce pays particulièrement attachant et la France. Et pour cela, rappeler d'une part l'influence des grands penseurs de l'encyclopédie et d'autre part l'influence de la Révolution et de Napoléon, lequel a permis l'indépendance de cette colonie espagnole. Nul doute que l'univers de la féminité argentine moderne est bien représenté par Amalita Lacroze de Fortabat, dont je croque le portrait dans mon livre, vous vous en souvenez, qui s'intitule « Les élites argentines et la France » aux éditions de l'Harmattan, deuxième édition 2004. Et surtout, comme je parle aujourd'hui des femmes, surtout, par celles qui restent magnifiquement présentes pour les intellectuels latino-américains francophiles, Victoria Ocampo. Il n'est d'ailleurs que grand temps de vous dire tout le bien que je pense d'elle. Née le 7 avril 1890 dans une famille qui se confondait avec l'histoire de l'Argentine, Victoria, fille de grands bourgeois, a la chance de venir en France dès l'âge de 6 ans. La belle époque fascine alors les étrangers, Paris étant à la fois un phare spirituel et un lieu de plaisir, il continue de l'être, soyez-en assurés. La petite fille aura, bien sûr, une perceptrice française. Comme elle adore la France, elle ose même avouer, c'était une autre époque, je cite, « Je parle mieux le français que l'espagnol, cela me plaît beaucoup », fin de la citation. Puis, c'est le retour dans son Argentine natale où au fil des années sa sensualité s'éveille. Son goût pour l'indépendance se précise. Bref, elle s'affirme. En rébellion contre son milieu conservateur, la chance lui sourit lorsqu'elle a la possibilité d'étudier le répertoire du théâtre français avec l'inoubliable Marguerite Moreno. En 1908, elle a 18 ans, un nouveau voyage en France qui durera cette fois 2 ans la comble. Une citation, « On se multiplie en voyageant » a noté avec justesse quelque part le cardinal Guérin. Retrouvons un instant Paul Morand, toujours heureux de préciser, je cite, « S'en aller, c'est gagner son procès contre l'habitude », fin de la citation. À Paris, elle suit des cours variés à la Sorbonne. Au fil des mois, elle s'épanouit et se sent devenir une âme sans passeport. Intelligente, on a compris que Victoria l'était, mais en plus, elle devient une fort belle femme, elle a de la classe. Lorsque José Ortega y Gasset la rencontre en 1916, ébloui par elle, par sa beauté rayonnante, il lui déclare « Vous êtes, madame, une apparition exemplaire de féminité ». Quel beau compliment. Plus tard, en 1920, elle commence à collaborer au grand journal La Nación. À partir de cette date, elle appartient vraiment au monde des lettres argentines. Elle a 30 ans. C'est alors que l'œuvre de Rabindranath Tagore, fameux poète hindou, indien je veux dire, retient son attention. Elle y découvre avec bonheur un dieu d'amour, de bonté, de pardon, ce qui l'amène à s'intéresser au dialogue des esprits et au dialogue des cultures. Elle finit par rencontrer l'illustre auteur indien, puis d'autres amitiés privilégiées suivront. Ortega y Gasset, même repoussé, n'oubliera jamais cette Mona Lisa de l'hémisphère sud, qu'il aurait tant aimé avoir pour muse. On le comprend. De nouveau installée à Paris en 1928, elle est introduite auprès de l'impétueux Pierre Drieux-La Rochelle. D'emblée, Victoria lui plaît. Il devient la distraction de Victoria, n'hésite-t-il pas à confier. Non sans humour, lui l'amateur de prostituées et de femmes riches. À Paris, toujours cœur encore vibrant de l'Europe, elle a aussi la possibilité de réfléchir sur son identité d'Argentine, d'Américaine, bref, de s'interroger sur sa différence. Si elle réalise soudain combien l'Amérique hispanique coule dans ses veines, en même temps, elle constate à quel point l'esprit et la création sont toujours l'apanage des Français, des Européens. Ce voyage l'a rendue plus adulte, moins naïve. Drieux l'a marqué bien plus qu'elle ne veut le reconnaître. L'heure de la maturité a sonné, lorsque l'idée de créer une revue littéraire est proposée à Victoria par Eduardo Malea et Valdo Franck. Ils souhaitent promouvoir le dialogue entre les cultures dans leurs esprits. Il s'agit d'établir des ponts culturels entre les continents. Nul doute qu'il serait grand temps de poursuivre leur extraordinaire travail. Mise au courant du projet, emballé, Drieux l'introduit un peu partout, si bien que le premier numéro de la fameuse revue « Sûr » paraît en janvier 1931. Peu après, Drieux et Borges se rencontrent en Argentine. Le premier écrira « Borges vaut le voyage ». Le second, lui, est frappé par l'intelligence du français. 1935 est une année importante pour Victoria, car elle commence à rédiger ses fameux « testimonios », c'est-à-dire en français « mémoires ». Elle n'arrêtera sa chronique sensible et désordonnée du monde qu'elle côtoie qu'en 1977. C'est émouvant à lire. Quelque temps avant de faire la connaissance de Roger Caillois, de l'Académie française, n'oublions pas, elle reçoit la visite de Georges Bernanos, lequel saisit aussitôt la dimension profondément mystique de son interlocutrice, mystique mais très charnelle aussi, car très vite, elle est totalement séduite par les yeux noirs de Caillois. Denis de Rougemont et Gisèle Freund prédisent à Caillois, sous forme de boutade, « Tu verras, la panthère te dévorera ». Il n'avait pas tort. Comme par hasard, Victoria lui propose de venir donner des conférences en Argentine. Coup de chance pour elle et eux. La guerre le surprendra dans ce pays situé au bout du monde, à l'époque, où il restera durant 5 ans. La passion est une autre forme bien plus agréable de la guerre. Lorsque la nouvelle de la libération de Paris se répand, Buenos Aires exprime l'intensité émouvante de sa francophilie. Plus 1 million de personnes défilent alors dans les rues. Nul autre que Michel Enfrol, excellent connaisseur de l'Argentine, m'a raconté un jour que ce pays a fourni le plus gros contingent venu d'un pays étranger à la France libre, pas moins de 200 personnes. Avec une volonté acharnée, Victoria préside le comité de solidarité en faveur du pays des Lumières et agit avec une générosité extraordinaire. Le nouvel ambassadeur de France en Argentine, M. Vladimir d'Ormesson, l'oncle de Jean d'Ormesson, de l'Académie française je précise, déclare être ébloui de trouver une seconde France en Argentine. Il considère et le fait savoir que Victoria Ocampo s'affirme comme la plus intelligente et la plus précieuse amie que le pays des droits de l'homme possède sur ce continent. Revenons encore un instant à Borges, lui l'anglophile, qui a écrit quelque part « Le modernisme est inconcevable sans Hugo ni Verlaine » ou « sans Hugo et Verlaine ». Et l'écrivain d'ajouter « Dans mon enfance, ignorer le français, c'était presque être analphabète ». Et de continuer « Au fil des années, nous sommes passés du français à l'anglais, à l'ignorance, y compris même celle du castillan, il le déplorait amèrement ». Il apparaît clair que le dialogue des cultures n'existe que s'il repose sur la réciprocité. Aussi, en 1950, Roger Caillois, qui n'a rien d'un ingrat, fonde-t-il chez Gallimard la Croix du Sud, la collection La Croix du Sud, en souvenir du nom de l'avion au bord duquel Mermoz a disparu le 7 décembre 1936. Collection consacrée aux œuvres d'auteurs du monde latino-américain qu'il choisit lui-même. Avec celui de Jean Cassou, ah Jean Cassou, ne l'oublions pas, mort il y a déjà un certain nombre d'années, mais qui avait créé en France le musée d'art moderne. Avec celui de Jean Cassou et de quelques autres personnalités, le rôle de Roger Caillois est éminent dans la découverte et la diffusion de la littérature sud-américaine en France. Mais revenons en Argentine, où la situation politique se dégrade. Imaginez que l'indépendante Victoria Ocampo figure sur les listes des opposants au général Perón, accusé à tort d'avoir participé à un attentat. Elle n'a plus 20 ans, la pauvre femme. Elle est, à la stupéfaction générale, incarcérée. En France, Albert Camus est le premier à réagir. Caillois, Mauriac, Mauroy, Pollan lui emboîtent aussitôt le pas. Divers gouvernements exercent de vives pressions sur Perón, notamment l'Inde dans la personne du Premier ministre Nehru. Après avoir passé 3 semaines en prison, Victoria est finalement libérée le 2 juin 1953. De l'avis unanime, la période comprise entre 1931 et 1957 fut la période d'or de la revue Sûre, qui a sans cesse défendu la cause de la démocratie contre la dictature. il faut rappeler que la direction n'a jamais hésité à appuyer la cause des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis les années passent, les rencontres succèdent aux rencontres, la vie avance, jusqu'en 1978, où un scandale absolu terrasse Victoria. Roger Caillois de l'Académie française meurt. Victoria ne lui survivra pas longtemps. Elle s'éteindra en effet dans la nuit du 27 au 28 janvier 1979. En France, quelques brefs articles de journaux mentionnent la disparition. Peu de choses, reconnaissons-le, au regard de ce que cette femme courageuse a donné sans compter à la France. La reine Victoria, l'Argentine bien sûr, s'en est allée discrètement. Mon séjour sur le sol argentin touche à sa fin. Avec une pensée pour le grand Mermoz, je reprends l'avion du retour. Tandis que l'Airbus se pose sur le tarmac de l'aéroport Charles de Gaulle, je n'oublie pas le formidable voyage latino-américain du premier président de la Ve République, le général Charles de Gaulle. Grâce aussi à Saint-Exupéry, à Jean Mermoz et à tous ces francophiles argentins, pilotes, intellectuels et alliés, je n'oublie rien de l'esprit de la ligne qui unit encore dans l'ombre bienfaisante la France à l'Argentine, la France à l'Amérique du Sud, continent resté malgré la distance proche de nous, proche de nos cœurs. C'était des braves dont nous devons honorer la mémoire. Nous sommes à présent à Paris, la ville lumière capitale tant aimée par mes amis argentins et pour l'heure, quelle belle coïncidence. L'Argentine n'en finit pas d'agiter nos esprits de Français grâce entre autres à un certain Hector Bianchiotti de l'Académie française. Cet Argentin de Paris, un personnage complexe, est arrivé dans notre pays en 1967. Devenu citoyen français en 1981, 15 ans plus tard, l'Académie décide de le recevoir sous la coupole. Quel prodigieux parcours pour un homme issu d'une famille fort modeste du fin fond de la Pampa. Il suffit d'explorer les livres de Bianchiotti, notamment un très beau livre, je cite « Le pas si lent de l'amour » Grasset, 1995. Je pense aussi, quelques années auparavant, à un autre titre, « Sous la miséricorde du Christ » Gallimard, 1989. Donc, il suffit d'explorer les livres de Bianchiotti pour y découvrir un style éblouissant. Le nouvel académicien crée en effet un français flamboyant, presque baroque, phénomène rare chez les auteurs de notre pays. Dans l'un de ses romans que je viens de citer, « Le pas si lent de l'amour », il raconte sans fard les raisons qui l'ont poussé à fuir son univers et à gagner par étapes la France. Lisez entre autres les pages 296 et 297 de ce beau livre, tout est résumé ici. Le rayonnement de Paris apparaît nettement dans sa libre puissance, sa libre inspiration. L'auteur note, je cite, « La scène avec là-bas la lente courbure d'un corps qui se retourne dans le sommeil et la merveille de ces ponts qui tiennent ensemble les villes qui composent la ville. » Fin de la citation. C'est également dans la ville lumière que vit la poétesse Sylvia Baron Supervielle, ou Baron Supervielle, une nièce de Jules Supervielle. Arrivée à Paris en 1961, elle tombe amoureuse de cette ville fascinante, la plus belle du monde, d'après les meilleurs connaisseurs. Pour elle, Paris permet à l'esprit d'évoluer tant on est soulevé par cette cité. C'est comme si on se trouvait à l'intérieur d'un livre. Nul doute qu'à l'origine, l'influence de sa famille a été considérable en l'attachant à 1000 chauds souvenirs français. Sa mère étant morte lorsqu'elle avait 2 ans, c'est sa grand-mère qui lui a raconté la France comme s'il s'agissait d'un conte. Même devenue parisienne, Sylvia Baron Supervielle n'en conserve pas moins des traces très visibles de son Argentine natale, notamment dans l'un de ses derniers livres. Dernier livre de Sylvia Baron Supervielle, un des derniers s'intitule « La frontière » et un autre « Nouvelle cantate ». Elle qui n'hésite pas à être, pour reprendre le titre d'un article que Le Monde lui a consacré, « L'étrangère des deux rives ». Dans le domaine de la littérature française, elle est très tôt tombée amoureuse de Michel de Montaigne. Sartre a également retenu son attention, moins cependant que des écrivains publiés par les éditions de Minuit tels Claude Simon, Nathalie Sarraute et Samuel Beckett. Elle ne cache pas que les langues la fascinent et considère qu'elle doit son approfondissement du français à sa connaissance de plusieurs langues. D'où l'importance pour nous tous du multilinguisme, clé entre autres de la tolérance et mieux même de la connaissance. Comme ce qui est étrange l'attire fortement, elle constate que le français lui a ouvert royalement les portes de l'étrangeté. Le français enracine, apprend le dépouillement, est-elle persuadée. Ce que Sylvia Baron Supervielle aime en France, c'est la rigueur, l'organisation de la vie. Elle se félicite qu'une logique française gouverne sa vie et lui permette de puiser ce qu'il y a de meilleur en elle. Sylvia Baron-Supervielle estime que l'univers de la langue française résume à la perfection la passion pour l'esprit. En Argentine et dans toute l'Amérique latine, la connaissance fut longtemps dispensée par la langue française jusqu'au jour où des gens ont commencé à répandre le bruit qu'elle ne servait à rien, comme si l'esprit ne servait à rien. En vérité, il est évident que l'engouement pour le concret, le dollar et l'anglo-américain se sont répandus à la vitesse de l'éclair à la suite de l'effondrement terrible de l'Europe, 1940, et du même coup des valeurs européennes. La flamme, si appréciée de l'esprit français, serait-elle définitivement menacée par le rouleau compresseur stimulé par le règne de la production ? Personnellement, je ne le crois pas. Les derniers événements prouvent que la France a retrouvé un nouvel équilibre. Elle tente de distiller une force morale, preuve d'une réelle solidarité avec de nombreux peuples. Tant qu'il y aura des résistants au projet hégémonique, au totalitarisme, à l'uniformité, à l'univers de la superficialité, l'espoir distillé entre autres par un André Malraux ou un Jorge Luis Borges ne manquera pas de nous inciter à reprendre confiance dans l'univers des valeurs. Il est à présent temps de conclure cette troisième partie de mon émission. Je sais cependant qu'un auteur apprécié de tous guide ma plume ou ma parole. L'homme qui était aveugle et qui sentait tout, Jorge Luis Borges, à qui un journaliste demanda un jour s'il se sentait argentin, et l'écrivain de répondre « Le pays de chacun est un destin intime, une histoire de famille ». Belle réponse unissant dans un même désir la France et l'Argentine, deux pays amis qui appartiennent plus qu'on ne le croit, on le sait, à une lignée fière, créatrice, joyeuse et passionnée.